dans l'actualité locale, on va parler d'une exposition sur les poilus qui se trouve à Saint-Jean-d'Assé. Et hier soir, eh bien, il y a eu une conférence avec Stéphane Tison, maître de conférence à l'Université du Maine, qui est intervenu donc à la salle des fêtes de Saint-Jean-d'Assé dans le cadre donc de cette exposition sur la Grande Guerre, mémoire de poilus pour les jeunes d'aujourd'hui, 1914-2014. C'est le seul projet en Sarthe à avoir reçu le label national de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et ce projet a nécessité 18 mois de préparation. Un projet qui a été réalisé avec et pour les jeunes, avec les jeunes de l'école de Montbiseau et son directeur Stéphane Brière, qui est féru d'histoire. On va entendre l'interview de Stéphane Brière. Éric Lucas donc était hier à Saint-Jean d'Assé.
Stéphane Brière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour à Saint-Jean d'Assé pour accueillir des visiteurs dans le cadre d'une action qui a été labellisée par la mission nationale du centenaire 14-18. Rappelez-nous rapidement ce que ça veut dire être labellisé.
Alors, être labellisé, c'est-à-dire proposer à la commission du centenaire sur la Grande Guerre des projets qui sont suffisamment intéressants, on va dire, pour obtenir de la part de l'État une subvention et un soutien, parce qu'il est bien évident qu'une exposition qui a de l'ampleur nécessite des moyens. Et donc, dans le cadre de la mission du centenaire, on a proposé donc ce dossier déjà longtemps. Il a été retenu. Et lorsqu'il a été retenu, on a donc décidé de créer une association pour porter le projet.
Alors, ce projet a quelque chose d'assez particulier sur lequel vous mettez bien l'accent, c'est sur l'implication des jeunes. C'est à la fois pour les jeunes et par les jeunes. Est-ce qu'on peut résumer ça ainsi ?
Bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une exposition qui a été en grande partie construite par les élèves des écoles donc primaires du canton de Ballon-Saint-Jam. Donc ces élèves ont d'abord commencé, comme pour beaucoup de communes, dans le cadre de ces commémorations, à travailler sur le monument aux morts des communes respectives, mais ont ensuite fait un autre travail un petit peu plus scientifique, un petit peu plus historique, en s'intéressant alors non seulement bien sûr au monument aux morts, en retranscrivant sur des tableaux, sur des cartes, les fiches correspondant à chacun des soldats morts dont les noms sont gravés sur ces mêmes monuments, et en même temps en travaillant sur des objets du quotidien de ces mêmes soldats. C'est-à-dire qu'en fait on a eu la chance de disposer de la confiance de 4 collectionneurs. On a pu donc photographier les collections, les objets un par un. Ces objets ont ensuite été classés de façon thématique, triés. Et chaque école a travaillé sur une thématique. Alors qui sur l'hygiène du soldat, sur l'alimentation du soldat, sur les passe-temps du soldat, etc. Et chaque école a donc été en mesure de fabriquer les étiquettes qui permettent donc de légender chacun des objets. Ce qui fait que les enfants ont vu les objets sur photo et mais les voient en vrai. On va dire en vrai, comme ils le diraient eux-mêmes, en venant voir l'exposition, puisque tous les matins, les scolaires viennent visiter l'exposition dans le cadre justement de cette association.
Donc un travail d'observation de documents, avec du visuel, on va dire sur papier dans un premier temps, enfin ou un écran en tout cas, mais pas l'objet lui-même, donc pas ce contact immédiat, l'identification, mais aussi des panneaux de synthèse.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ces objets, imaginons l'hygiène du soldat, sont accompagnés d'une étude iconographique, c'est-à-dire que les enfants ont recherché, aussi bien sur Internet que dans des ouvrages spécialisés, les photos d'époque permettant de mieux comprendre, effectivement, et de donner aussi au public adulte, cette fois-ci, un support visuel qui permet de mieux comprendre l'objet en vitrine. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'assez étonnant, parce qu'en fait, ils ont une véritable démarche de pédagogie. Ça fait qu'en fait, les enfants eux-mêmes vont présenter leurs travaux. Alors, il y a des travaux effectivement en vitrine, comme on vient de le dire, mais il y a également des panneaux thématiques. C'est-à-dire qu'en fait, certaines écoles ont choisi des thèmes supplémentaires pour enrichir cette exposition. Les troupes coloniales, le rôle des femmes pendant la guerre, l'implication des enfants également, les animaux, c'est un grand classique ça, forcément auprès des enfants. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé effectivement avec une multitude de panneaux qui, lorsqu'ils sont tous réunis, bah, constituent une grosse exposition, c'est moins qu'on puisse dire.
Et vous travaillez avec des enfants de primaire. Comment vous les rapprochez avec l'écart de temps qu'il peut y avoir et le côté très lointain qu'il y a pour eux de la guerre? Comment vous les rapprochez finalement de la vérité historique? Comment on passe de la simple curiosité à l'observation historique quand on a cet âge?
Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut bien se dire que déjà même une partie importante des adultes, c'est déjà compliqué pour nous de comprendre le français, enfin dire le sartois d'il y a 100 ans. Alors vous pensez bien que pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Il y a un problème de représentation. Donc il est difficile pour un enfant de cet âge-là de se représenter le sartois en 1914 ou en 1918. Donc là, effectivement, il faut l'accompagner, mais pas effectivement absolument attendre que tout soit parfaitement perceptible et compris. Donc il faut être attentif au fait qu'il ne faut pas non plus donner d'erreurs ou d'erreurs importantes dans le contenu. On ne peut pas non plus avoir pour vocation de parfaitement tout obtenir comme implication dans la construction de l'image que se fait l'enfant de la Grande Guerre est très très éloignée de l'image que nous-mêmes on peut s'en faire, qui est elle-même éloignée de la réalité dans la mesure où nous sommes en 2014 et 100 ans après les événements, on ne pense ces événements qu'en fonction de notre époque. Donc c'est très compliqué.
Quelles sont justement les images qui sont dans la tête des enfants au moment où vous venez les voir, hein, voilà, on va travailler sur cette période. Qu'est-ce qu'ils ont comme représentation en tête?
Alors les représentations sont celles qu'ils peuvent effectivement découvrir grâce aux enseignants, parce que les enseignants ont fait un travail colossal pour accompagner ces enfants. Donc iconographique bien évidemment, montrer des photos, des gravures, lire des lettres de Poilu. Donc c'est forcément des choses qui sont, on va dire, très très simples. Il ne faut pas essayer de faire très compliqué. Après, les enfants, lorsqu'ils viennent effectivement voir l'exposition, ils vont s'attacher à quelques objets. C'est-à-dire qu'ils vont être impressionnés forcément par la couleur rouge, Garance, des uniformes de 1914 du Piu-Piu. Vont être effectivement très impressionnés du fait qu'on va passer au bleu horizon avec un casque qui apparaît en 1915. Et lorsqu'ils vont se pencher au-dessus des différentes vitrines, vont être effectivement surpris soit de la rusticité de certains des objets, au contraire, du grand modernisme d'autres. C'est-à-dire qu'ils sont aussi impressionnés par le coupe-chou qui sert à se raser que du fait que les Américains étaient déjà arrivés avec des thermos. C'est-à-dire on a effectivement quelque chose de très étonnant. C'est qu'il y a une partie effectivement très rustique du quotidien de ces soldats. Et on sent qu'effectivement, les années de guerre vont malheureusement aussi, comme toutes les guerres, vont apporter aussi des progrès aux chiffres, malheureusement, au prix de terribles pertes humaines. Donc les enfants voient quand même une partie du matériel comme quelque chose qui leur permet de sortir du tout livresque. Donc c'est concret, on peut même éventuellement, parfois, de temps en temps, laisser manipuler les objets, les laisser sous-peser, les laisser prendre en main. C'est vrai que c'est impressionnant. Après, de réussir à classer de faire en sorte que dans leur esprit, tout soit parfaitement compréhensible, c'est compliqué. Bien évident que ça prend du temps, et c'est du temps à construire l'apprenti. C'est un réel apprentissage, et comme tout apprentissage, il faut du temps.
Alors, est-ce que votre objectif est qu'il dépasse finalement le toucher de l'objet, le concret de l'objet, pour les faire arriver à une perception la plus juste possible de ce qu'a été en termes de dégâts humains, matériels, politiques, sociaux, finalement, cette guerre?
C'est ce qu'on voudrait obtenir de leur part. À partir du moment où vous expliquez à un enfant que sur un monument aux morts, vous avez souvent des dizaines de noms gravés, il est évident que pour un enfant, lorsqu'on lui dit que tous ces noms sont forcément des fils et que ça laisse des mamans éplorées, là forcément on impacte l'enfant. C'est qu'on lui fait comprendre qu'une guerre, malheureusement, c'est excessivement douloureux. C'est au travers de ce genre d'images qu'on fait comprendre aux enfants que la guerre, effectivement, c'était quelque chose de totalement inadmissible, que c'est une douleur incommensurable et que ce sont surtout des dégâts, des destructions, des pertes irrémédiables. Alors ça, forcément, ça prend du temps.
Alors, ils travaillent évidemment beaucoup de temps là-dessus, pas le temps habituel consacré à l'histoire. Qu'est-ce qui s'est fait donc ici dans les écoles qui ont travaillé? Et dites-nous aussi quelles sont ces écoles. Enfin, bon, on a compris le secteur Ballon-Saint-James.
Voilà, tout à fait. Donc les écoles primaires publiques, donc du secteur Ballon-Saint-James. Alors, le travail a été commencé, les premiers contacts ont été pris il y a 2 ans. Parce qu'il s'agissait à l'avance de disposer de collections, de préparer tout ce travail. Alors, dans le cadre de l'association Apache,
Apache, présentez-nous Apache.
C'est Association de promotion des arts et de la culture humaniste à l'école. Un acronyme un petit peu
séduisant pour les enfants, en tout cas.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'est histoire de les séduire. Alors, il s'agissait tout d'abord déjà de prendre des contacts il y a 2 ans. Alors, aussi bien des contacts locaux, au niveau des élus, au niveau de disposer d'une salle, d'impliquer les partenaires, que ce soit financiers ou techniques, les différents mécènes. Ensuite, il a fallu disposer d'un bon contact, d'un bon réseau au niveau des collectionneurs, pour qu'ils acceptent. Et ensuite, de créer une association qui permettait non seulement d'obtenir donc des subventions au titre de cette exposition, mais surtout d'engager ensuite les enseignants dans l'aventure. Et engager les enseignants dans l'aventure, ça ne se fait pas de façon, on va dire, désordonnée. Il a fallu, au niveau de la circonscription, donc Le Mans-Coulaines, donc dirigée par Madame Houyel, organiser un plan de formation continue, c'est-à-dire que les enseignants des écoles primaires ont disposé, dans le cadre de leur formation initiale professionnelle, d'animations pédagogiques au cours desquelles les pistes de travail leur ont été données pour qu'ils puissent effectivement plus sereinement, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'impressionnant, hein, tout le travail qui a pu être fait par eux,
aux enfants. Il y avait un ciblage particulier, CM1, CM2 ?
Alors, la priorité était donnée forcément aux élèves de CM1, CM2, donc on appelle ça, on va dire, pour faire simple, le cycle 3 de l'école élémentaire. Après, pour ce qui est de la visite, effectivement, on a fait en sorte que le maximum d'élèves puissent venir. Donc les CE2, les CM1 et les CM2 sont bien évidemment présents pour la visite de cette école, de cette exposition, pardon, même si dans ces écoles-là, seuls les élèves de CM1 et CM2 ont effectivement construit l'exposition.
Donc, combien d'enfants finalement étaient impliqués dans cette préparation, sans parler des visites ?
Alors là, après, si on compte les enfants qui ont eux-mêmes construit l'exposition, ceux qui ont fait les panneaux, ceux qui vont venir visiter cette exposition, on va dire que grosso modo, on en impacte environ 2000.
Ce qui est une opération importante en termes pédagogiques et tout simplement populaire pour une expo.
Oui, voilà. En plus, alors non seulement au-delà de ces élèves qui viennent visiter l'exposition, on tenait absolument à ce que l'exposition soit ouverte au grand public. Alors sur la date notamment du 11 novembre, sur le week-end médian, c'était indispensable, et tous les après-midi, puisque donc les scolaires viennent prioritairement le matin, mais il fallait absolument que le grand public puisse venir voir cette exposition qui est, et ça c'est important de le signaler, libre et gratuite, bien évidemment, d'accès.
La culture à la portée de tout le monde, ça, on va pas vous en vouloir sur ce point-là, c'est sûr. Les collectionneurs, il y a 4 collectionneurs. Il y a ici effectivement des objets tout à fait intéressants, entre autres des uniformes, par exemple. Vous pouvez nous présenter ces collectionneurs et la façon dont eux-mêmes collectionnent. Alors, parce que tout à l'heure, on a vu passer, pour être concret, j'ai vu deux fois passer des personnes, soit avec des livres, avec des cartes postales écrites, quelqu'un avec une pièce, avec une photo, et demandant à en savoir plus. Donc, il y a des objets un peu partout. Mais le collectionneur, lui, il a une démarche volontaire, ciblée ou non?
Bah, disons que auprès des familles, qui effectivement des gens qui peuvent venir nous voir, la plupart du temps, ce sont des objets, des documents papier. Ce sont des archives militaires, les livrets militaires, les diplômes, éventuellement les médailles. Là, on a affaire à autre chose. C'est-à-dire qu'on a affaire ici, dans cette exposition, à aussi des objets du quotidien et les uniformes. Et ça, dans les familles, c'est plus compliqué de trouver des familles qui ont conservé ces objets-là. Alors, les collectionneurs, eux, sont effectivement des personnes donc, qui collectent, qui collectionnent. Donc, il se trouve qu'ils sont 4. Avoir prêté leur collection, 2 étant de la Sarthe et 2 étant de l'Orne.
On peut les citer peut-être ?
Oui, donc il s'agit donc de messieurs Bouillon, Aubier, Genot et Tourelle, qui ont effectivement apporté leurs 4 collections respectives dans le cadre de cette exposition. Donc ils trouvent leurs collections alors effectivement auprès de certains particuliers, vont les trouver sur internet, dans des salles de vente spécialisées, dans des bourses d'échange spécialisées, sur les vides-greniers, parce qu'il faut savoir que sur les vides-greniers, on trouve aussi... On en trouve encore, c'est de plus en plus compliqué, mais on en trouve également. Donc leur démarche consiste effectivement à collecter des objets dans une même thématique, pour pouvoir effectivement constituer des collections. Il se trouve que là, on a effectivement la chance d'avoir des personnes qui sont de la région, et donc les objets sont forcément des objets locaux.
Alors, ces 4 collectionneurs collectionnent exactement la même chose, ils ont la même démarche, ou alors ils sont spécialisés dans des aspects particuliers?
Alors, ils collectionnent tous ce qui concerne la Première Guerre mondiale, mais alors, il faut savoir que c'est tellement vaste comme domaine qu'au sein même d'un même thème, comme la Première Guerre mondiale, on peut collectionner différents sujets. Donc, l'un des collectionneurs, lui, est plutôt destiné à récupérer les objets concernant les régiments sartois et ornais. Un autre collectionne plutôt les régiments ornais et bas-normands. Un autre, consulter beaucoup les archives et faire effectivement une préférence à tout ce qui va être l'armée prussienne. Également, un des régiments sartois, le 117e pour ne pas le citer. Un autre collectionneur, lui, s'est intéressé à un régiment, donc le 94e régiment d'infanterie, qui lui, par contre, est un régiment qui se trouve dans la Meuse, un petit peu loin de nous, mais par contre, ça donne l'occasion d'étudier un régiment entier, au travers de vitrines et de panneaux, sur l'ensemble de l'exposition.
Alors, ce qui attire le plus ici, évidemment, c'est les uniformes. Je suppose que pour les enfants principalement, mais je vous rassure, les adultes, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut voir comme uniformes ici et comment ils sont classés, en fait?
Alors, on a classé les uniformes de façon chronologique. Donc, on a commencé par les uniformes qui vont être portés, on va dire, jusque début 1915. Donc, le fameux pantalon Garance, le képi rouge. Typique du piou-piou, pour ensuite plutôt s'intéresser à partir de 1915 à des tenues qu'on va appeler bleu horizon avec l'apparition du casque. On a également mis, pour représenter l'année 1917, deux soldats américains, puisqu'il faut savoir que tous les Américains sont passés en Sarthe, que ce soit l'aller ou au retour vers leur pays. Et puis on a, à défaut d'avoir des objets, fait construire des panneaux pour expliquer que tous les alliés sont passés en Sarthe. Donc on peut citer les Anglais, les Belges, les Polonais, qui sont importants pour notre département, les Russes également. Donc là, il n'y a pas de représentation en uniforme, mais on a effectivement des panneaux représentant tout ça. Mais au-delà des uniformes complets, c'est en fait, bizarrement, sur les vitrines, composées de petits objets, parfois insignifiants, que les gens s'arrêtent.
Par exemple,
les gens sont très surpris de découvrir un martinet.
Qu'est-ce qu'il fait là?
Alors, le martinet est placé judicieusement, d'ailleurs, dans la vitrine concernant l'hygiène et l'entretien du soldat. Tout simplement parce que dans la tranchée, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas forcément de quoi faire la toilette et tout de nettoyer les uniformes. Mmh. Et donc, en fait, on suspendait les uniformes à un cintre ou à un montant en bois et on fouettait vigoureusement avec ce martinet pour faire tomber la boue, la poussière ou les puces et les poux qui pouvaient se trouver dans l'uniforme. Donc c'est vrai que des gens sont très surpris de voir un ouvre-boîte d'époque, un couteau de poche d'époque, une gamelle, une lanterne, des objets du quotidien auxquels on s'attend peu.
Alors cette exposition, donc, il a fallu la réunir, la déplacer, l'implanter. Tout ça doit être un peu lourd à gérer.
Alors oui, voilà. Donc c'est
quand on est à Saint-Jean-d'Assé, hein.
Donc c'est assez technique parce qu'il a fallu faire venir les collections d'un petit peu partout. On a disposé par contre de mécènes, c'est-à-dire qu'en fait on a pu disposer pour tout simplement les citer. Donc le Super U de Saint-Jean nous a gracieusement mis à disposition un camion.
Ça aide.
Ça aide parce que forcément il faut la logistique. Hein, il faut du camion, de déménagement, il faut des bras aussi. Donc les bras ont été nombreux. Donc il faut effectivement beaucoup de monde pour apporter ces collections et effectivement c'est du déplacement imposant.
Jusqu'à présent, donc, quel est le public que vous avez constaté en dehors du public scolaire? Alors, qui vient et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on vous demande?
C'est complètement intergénérationnel. On a eu hier dimanche une famille qui est venue, il y avait 4 générations. Donc c'est vrai que ça va des enfants au 3e voire 4e âge. Parce qu'en fait, on est effectivement devant quelque chose, un thème, un sujet, la Grande Guerre, qui va intéresser effectivement toutes les générations, parce que les anciens expliquent aux plus jeunes ce que ça a pu être. Donc il y a une transmission, en fait, du savoir. Il y a surtout une transmission de la mémoire. Et en fait, ça permet effectivement de faire sortir beaucoup de noms de l'anonymat. Il y a une forme d'immortalité, je pense, en remettant effectivement tous ces noms sur une carte ou sur des panneaux.
Vous avez prévu aussi un temps de conférence. C'est Stéphane Tison qui intervient. Voilà. Quel sera le thème de son intervention?
Alors, c'est sur l'expérience combattante. Donc Stéphane Tison est un maître de conférence à l'Université du Maine en histoire contemporaine, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Et donc il nous a fait la joie et le plaisir de nous réserver sa soirée et d'animer une conférence sur le thème de l'expérience combattante.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on a lancé une action de ce type il y a donc plus de deux ans, au moment où justement elle est en cours de finalisation, d'aller vers son terme? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de refaire une opération du même genre sur un autre sujet historique, ou alors de souffler un peu?
Je suis un grand passionné d'histoire.
Ça, on l'a bien ressenti.
Voilà, pour me poser, j'ai toujours des idées en tête. Mais ce qui est surtout très, 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 très rassurant, et je voudrais quand même le signaler, c'est le fait que toute la hiérarchie et que tous les collègues ont tous, effectivement, été très, très, très impliqués dans le dossier, que les enfants ont travaillé de façon prodigieuse. Et donc, forcément, ça encourage. Donc, forcément, ça donne envie de faire d'autres choses.
Grâce aux subventions reçues à l'association Apache, celle-ci permettra de prendre en charge le déplacement d'environ 600 élèves qui viendront visiter l'exposition. Cette exposition est visible jusqu'au 21 novembre. Elle est accessible à tous les publics. Elle est ouverte de 9h à 19h à la salle des fêtes de Saint-Jean-d'Assé. L'entrée est libre et gratuite.